La grande matinale.
Yves Kouamaïsou, alors, est-ce que investir en Europe est rentable ou alors est-ce qu'un risque élevé pour les investisseurs institutionnels?
Alors, vous savez, selon une étude financée par Abu Dhabi, réalisée par une structure anglaise qui s'appelle l'Economic Intelligence Unit, l'intention des investisseurs institutionnels, qu'on appelle d'ailleurs les zinzins pour les investissements institutionnels, pour ce qui est de l'Afrique d'ici 2016, ont constaté qu'investir en Europe demeure un risque élevé avec un retour sur investissement plutôt faible. L'Afrique donc se présente comme un espace prometteur. En vérité, c'est l'augmentation de la classe moyenne et donc d'un pouvoir d'achat en émergence qui attire ces investisseurs. Il faut croire aussi que plus de 300 millions d'Africains sont passés de la catégorie des classes moyennes, renforçant le fait que l'économie africaine repose aussi sur la consommation. Et dépensant auparavant 2 dollars par jour, cette nouvelle catégorie, donc la classe moyenne, dépense aujourd'hui à peu près 20 dollars par jour.
Oui.
C'est cette augmentation qui va continuer à croître et qui intéresse les investisseurs étrangers, car les matières premières dans lesquelles ils investissaient avant reposent de plus en plus sur de nombreuses conditionnalités et des obligations de transparence terribles. Et bien sûr, personne n'est très intéressé par cette transparence, notamment les grandes sociétés. Mais sans régulation et contrôle par un État africain, sérieux, des opérations pourraient avoir lieu sous la forme d'un transfert de propriété vers les fonds d'investissement, parce que ce sont ces fonds d'investissement qui, au fond, forment ces zinzins, ces investisseurs institutionnels. Rappelons que plus de 60 millions d'hectares, au moins, ont été transmis en 2009 à des zinzins étrangers qui ne cherchent pas nécessairement le développement, mais la rentabilité, et la rentabilité de leur investissement.
Oui.
Donc, pas pour l'Afrique, et encore moins pour les populations africaines. Alors, il faut savoir que des erreurs stratégiques des élites et dirigeants africains, y compris la diaspora d'ailleurs, pourraient se retourner contre les Africains, notamment les générations futures, qui risquent de se réveiller dans une génération, d'ici 25 ans à peu près, et constater que l'Afrique n'appartient plus aux Africains, mais aux investisseurs institutionnels, donc aux zinzins. Et ces zinzins pourraient bien décider de les expulser. Qui ? Ces Africains, si ces Africains ne disposent pas de carte de séjour sur leur propre territoire, qu'ils ont vendu à un moment donné où ils croyaient qu'ils étaient pauvres et ils pensaient pouvoir récupérer.
Alors, est-ce que les investisseurs chinois vont investir à long terme en Afrique? Et deuxième question, Yves Kouamaïsou, vont-ils aussi à terme se comporter comme les investisseurs occidentaux institutionnels?
Alors, vous faites bien de parler des investisseurs chinois parce que beaucoup de critiques sont faites à leur endroit. Que ce soit dans les travaux publics, les mines, l'ingénierie, les services financiers, bien sûr la technologie de l'information, pratiquement tous les secteurs, les Chinois sont présents et ils sont implantés en Afrique. Alors la question est de savoir si les investisseurs chinois, qui investissent à long terme en Afrique, vont se comporter aussi comme des investisseurs institutionnels, des zinzins occidentaux, qui n'ont pas grand-chose à leur actif en termes d'infrastructures depuis 50 ans. Parce qu'il faut le dire, les zinzins occidentaux, elles n'ont rien construit qui ait vraiment duré en Afrique sur les 50 ans. Et on compare avec les Chinois en 10 ans, à côté, il y a quand même un peu de route, il y a un peu de chemin de fer qui se met, il y a des stades, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place. Donc on trouve de plus en plus des infrastructures effectuées par les Chinois dans les régions reculées en Afrique. Et quand on compare sur 50 ans, les zinzins occidentaux n'ont rien trouvé. Alors il faut être pragmatique. Dans le cadre du développement de la coopération Sud-Sud, la Chine est devenue un partenaire de poids et incontournable pour l'Afrique. Sa présence, au départ discrète, est devenue de plus en plus visible. Le problème est que la visibilité du personnel chinois ne suit pas la visibilité des contrats et des accords financiers signés au sommet de l'État.
Oui.
Il y a donc bien un problème de transparence, même si la Chine, en tant qu'État, est porteuse d'une vision alternative du développement. Il ne s'agit pas de venir coloniser l'Afrique, par exemple, contrairement à ce qui se dit. Mais la Chine, qui donne des leçons de développement aux pays occidentaux, n'est pas exempte de difficultés dans les ajustements avec des régimes plus démocratiques en Afrique. Ces zones d'ombre pourraient à terme remettre en cause les bénéfices que les populations africaines pourraient attendre de cette nouvelle forme de coopération. Alors avec un taux de croissance de 9,2% en 2011 et une légère baisse en 2012, qui va tomber à peu près à 8%, la Chine demeure l'un des premiers moteurs de la croissance mondiale. L'Afrique subsaharienne n'est pas en reste d'ailleurs, avec 4,9% de croissance en 2011 et une progression attendue en 2012 à environ 5,5%.
Merci Yves Kouamaïsou sur cette chronique afrocentrique consacrée à l'investissement de la Chine en Afrique à long terme. Et demain, vous nous parlerez de viol et de trafic de bébés au Nigeria.